Vous suivez nos programmes sur la chaîne 545 à Dubuque Canal Plus. Le journal, c'est avec Reine Fabienne Ndotiga. Reine, bonjour.
Bonjour Nina Verdiani-Apodé, bienvenue à tous dans ce journal. Les tracas serrés sur les barrières portent un coup à l'économie des États de la zone CEMAC. L'Observatoire des pratiques anormales d'Afrique centrale recommande plus de mesures contre ce phénomène. Précision dans quelques instants. La ville de Samwanja, autrefois occupée par les rebelles de la CPC, est libre et les habitants s'en réjouissent. Cette localité est désormais contrôlée par les casques bleus de la MINUSCA. Au sommaire également, la pratique de la pêche avec des produits toxiques prend de l'ampleur au village Sangrelim, situé à 20 km de Gol, dans l'Ampende. Des spécialistes de santé s'inquiètent. Football double, confrontation Centrafrique-Congo. Comment les deux équipes se préparent pour les éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Analyse dans la page sport.
À la une de ce journal, l'Observatoire des pratiques anormales d'Afrique centrale recommande aux pays membres de la CEMAC plus de mesures contre les entraves à la libre circulation dans l'espace communautaire.
Oui, Verdiane, recommandations formulées vendredi à Bangui après la présentation des résultats de cet observatoire dénommé OPA. L'Union européenne a investi 1 500 000 euros dans ce projet pour combattre les pratiques illicites afin de réduire le coût des échanges commerciaux. Igor Jaskan, Sinapai.
Le constat de l'Observatoire des pratiques anormales atteste que les pratiques illicites restent en vigueur sur les principaux corridors de la CEMAC, à savoir Bangui Douala, distant de 1430 km, et N'Djamena Douala, 1800 km. Une situation à l'origine de la flambée des prix dans les pays membres de la communauté d'Afrique centrale. Dieudonné Kenkelele, du Congo-Brazzaville, responsable informatique de l'Observatoire.
Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui a une ouverture sur la mer, et donc ce qui est en train de se faire entre le Cameroun et les autres pays pourra se faire entre le Congo et les autres États aussi, parce qu'il y a d'autres États qui reçoivent leurs marchandises à partir du Congo-Brazzaville. Donc les recommandations que nous allons formuler pour l'OPA pourront servir pour les autres pays qui ont une ouverture sur la mer.
Selon les données de l'OPA, les forces de sécurité sont citées comme auteurs des pratiques anormales sur les principaux axes de la CEMAC. Autre point, l'état de route, les conditions de travail des conducteurs, mais aussi la durée de contrôle. Robert Gonté, chef de projet adjoint de l'OPA, vient du Cameroun.
Au vu de ce qu'on a relevé, n'est-ce pas, sur des actions ponctuelles, mais l'action générale va dans le bon sens, parce qu'il y a quelques années, on relevait plus de 100 postes. Aujourd'hui, on est à une cinquantaine. Mais on voudrait qu'on la ramène à 4-5 postes pour rendre le travail plus facile dans les voyages de camions.
À la fin de cette rencontre de Bangui, les représentants des départements ministériels, à savoir transport, douane, sécurité, travaux publics, syndicats des transports, s'engagent au respect des conventions sous-régionales pour favoriser la libre circulation des biens et des personnes. Docteur Baudin Libengue Dobelekoka, coordonnateur de l'OPA.
Tous les acteurs s'engage là actuellement à faire tout ce qu'il peut faire, en tout cas pour que nous conjuguions nos efforts pour éradiquer totalement les pratiques anormales sur le corridor Douala-Bangui afin de soulager le panier de la ménagère.
La commission de la CEMAC a créé l'Observatoire des pratiques anormales pour promouvoir l'intégration communautaire encore fragile en Afrique centrale. Ce projet de 4 ans est financé par l'Union européenne à hauteur d'1 milliard de francs CFA et à sa deuxième année de mise en œuvre.
Merci à vous, Igor Jaskan-Sinapai.
Et puis rien après plusieurs mois d'occupation par les rebelles de l'ex-Séléka, membre de la CPC, la ville de Samwanja est désormais libre et les habitants s'en réjouissent.
Oui, Verdiane, Samwanja est libre et désormais contrôlée par les casques bleus de la MINUSCA. Ces derniers avaient soumis les rebelles de déguerpir, chose faite 2 jours après l'ultimatum. Ce départ des hommes armés est un ouf de soulagement pour la population, selon Thierry Evariste Biguinendi, préfet de la Haute-Côte. Il y a eu effectué une visite vendredi dernier en compagnie du chef de bureau de la MINUSCA. Jusqu'à secteur Est. Écoutons Thierry Evariste Biguinendi au micro de notre correspondant Gasmala Mustafa.
Nous avons constaté que la population est vraiment très contente de la présence de la MINUSCA. Et quand nous étions arrivés, les jeunes se sont mobilisés pour commencer à déblayer la route qui mène de l'aérodrome, là où est basé le contingent, pour aller à la ville. Donc ils ont commencé déjà à travailler et nous avons provoqué une réunion à la mairie. Il y a beaucoup de gens qui étaient venus. Et donc ils nous ont remerciés par rapport à la présence de la MINUSCA. Ils nous ont même dit que est-ce que c'est un rêve? Est-ce qu'ils vont repartir? Ils vont rester avec eux? Et donc le chef du bureau les a rassurés qu'ils vont rester. Et je suis en train de voir avec le commandant FACA pour qu'on puisse remonter les informations au niveau de l'état-major pour que les FACA puissent repartir là-bas. Parce qu'entre-temps, il y avait les FACA à Ouada, même les FSI sont attendus là-bas. Vous savez que nous sommes à la saison pluvieuse. Eux, là-bas, leur activité principale, c'est le diamant et la culture. Et il pleut beaucoup, il ne peut pas faire le diamant. Et il y a aussi l'inondation, le champ, il ne peut pas faire le champ. Et les commerçants qui étaient là-bas, les groupes armés, étaient dans la ville, ils ont fui un peu partout. Donc, ils sont confrontés à des problèmes de pauvreté. Donc, ils ont demandé dans tous les domaines, dans l'éducation, la santé. Je crois qu'avec le chef de bureau, nous allons réfléchir. Nous allons aussi lancer des appels auprès des ONG pour qu'on puisse aller vers eux pour les aider.
L'information continue sur Radio Ndekiluka. Les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale se poursuivent à Bangui.
Ouvert vendredi dernier sur convocation du chef de l'État, Faustin Conche Touadéra, ces assises de 2 semaines vont permettre aux députés de revoir à la baisse le budget de l'État pour l'année 2022. Ce budget se chiffre actuellement à plus de 298 milliards de francs CFA. Le gouvernement veut ainsi se conformer aux exigences des bailleurs, notamment du Fonds monétaire international FMI et de la Banque mondiale.
Dans la suite de l'actualité à Rennes, les bars dancing, boîtes de nuit et buvettes deviennent de plus en plus nombreux à Bangui.
Oui, Verdiane, la distraction centrée sur le commerce de boissons alcoolisées, c'est ce qui attire de plus en plus d'entrepreneurs. Cette activité est-elle réglementée? Quel impact peut-elle avoir sur la vie en société? Astrid de Bonheur Kolingué s'est intéressée à ce dossier.
Comme si c'était un secret révélé aux entrepreneurs. La seule affaire qui marche bien à Bangui, c'est le commerce de boissons. Les lieux de vente d'alcool se multiplient à travers la capitale. Constat par exemple, du croisement Miskine Benzui jusqu'au carrefour Sika Benzui, le bord de la route est visiblement longé par des débits de boissons, des endroits de plus en plus bouillants. Francis Benoît Mounaga est un étudiant. Il déplore les nuisances sonores occasionnées par ces bars.
Vraiment, la multiplication de ces bars dancing n'est pas bénéfique pour nous parce que carrément ça nous indispose, nous ne pouvons même pas étudier.
Dieu bénit Antiga, un leader religieux, voit en cela un danger pour le comportement et la vie en société.
La plupart des Sud-Africains, au lieu de prendre le temps pour réfléchir et créer une activité, ils sont tous en train de boire. Or, quand tu prends tout ton temps dans la distraction, quel temps tu auras pour réfléchir, pour concevoir quelque chose de positif qui va te permettre de t'émanciper, de t'enrichir?
Il identifie aussi un aspect qui peut jouer sur l'économie du pays.
Vous voyez, ce qui est encore mauvais dans ce genre de business, c'est que la plupart des promoteurs de ces débits de boissons ne sont pas des Sud-Africains. Mais ce que nous oublions, c'est que ces étrangers, quand ils viennent chez nous, ils ne viennent pas par complaisance, ils ne viennent pas par affection, et ils viennent par intérêt. C'est-à-dire quoi? Même si l'activité est nuisible pour notre santé, c'est pas le problème du moment où ça leur génère de l'argent.
Face à cela, le directeur de cabinet du ministère de l'administration du territoire parle, lui, d'une responsabilité partagée entre les autorités locales et son département. David Petit.
Ça n'engage pas totalement le ministère de l'administration du territoire. Notre responsabilité, c'est d'interpeller les maires. Ces bars sont installés partout ailleurs. Ça concourt à la nuisance. Ça perturbe l'organisation de la cité. Ceux qui sont chargés pour mettre en pratique cette logique, ce sont les communes, les collectivités territoriales. Petit à petit, on y arrivera.
L'exploitation de débits de boissons ou d'un restaurant est soumise à une réglementation particulière dans le but de protéger la population des risques liés notamment à l'alcoolisme. Mais en République centrafricaine, cette réglementation reste un défi pour les institutions compétentes.
Rennes, direction à présent la préfecture de Loampindé, précisément au village Sangrilim, situé à 20 km de Gaulle. Là-bas, la pratique de la pêche avec des produits toxiques prend de l'ampleur.
Oui, Verdian, cela inquiète les spécialistes de la santé qui craignent les effets néfastes de cette pratique sur les consommateurs. Constant Dolobabo, notre correspondant, a fait un tour dans ce village.
Au village Sangrelim, la pêche est l'une des principales activités de la population. Mais les pêcheurs utilisent des produits jugés toxiques pour appâter les poissons en grande quantité dans le cours d'eau Lim. Cette pratique s'étend aussi dans les fermes Sarki et Sarki, Boléré, Ladouane, Sanou et Toubanko. Paul Nguinissara, un habitant de Sangrelim, dénonce cette manière de faire.
Il ressort tout partout.
Les pêcheurs ont déversé des produits chimiques partout dans l'eau. Chacun le fait à son niveau. Le cours d'eau de Lim est complètement empoisonné et pour le moment, c'est difficile d'avoir de poissons à manger, car les poissons et les alevins sont tous exterminés.
Face aux risques sanitaires, le sultan maire de commune de Kouy, Amalamou Dalaylou, promet des mesures fermes.
Il y avait eu de problèmes, mais les pêcheurs ne les ont pas dévoilés. C'était après que nous étions informés et nous avions convoqué une réunion d'urgence pour mettre un terme à cette pratique. J'ai même alerté le chef des éléments de FACA, basé à Sangrélim, pour qu'il contrôle la pêche sur le cours d'eau. Si une personne utilise de produits toxiques pour la pêche, il faudrait qu'il l'arrête car une personne a déjà trouvé la mort suite à cette pratique.
La consommation des poissons empoisonnés a des conséquences sur la santé humaine. Le médecin-chef de l'hôpital du district de Bokaranga-Kouy, Evariste Guy Armel Denamsé.
Les complications liées aux gens qui vont manger les poissons ont été tuées par les produits chimiques. Il y a eu un problème de vision. Après, il y a les complications abdominales. Les cirrhoses. Et après, ça va se compliquer, entraîner la mort. Donc, l'utilisation des produits chimiques pour tuer les poissons, c'est une mauvaise pratique.
Aujourd'hui, plus de 2000 habitants du village de Sangrélim et ses environs sont exposés à la consommation de poissons empoisonnés. Constant Dolobabou, de retour de Dégol, Radio Ndekeluka.
Et puis, ce fait divers à Bossangwa, un nouveau-né volé la semaine dernière, a été retrouvé ce week-end.
Le nourrisson de sexe masculin, âgé d'un jour, a été enlevé par une femme alors qu'il était avec sa mère à l'hôpital. La présumée voleuse a été rattrapée par les forces de sécurité au quartier Panga, dans le 3e arrondissement, au moment où elle s'apprêtait à quitter la ville. L'enfant a été remis à sa mère. Il se porte bien, selon le médecin-chef de l'hôpital régional. Judith Goniré, la mère du bébé, raconte ce qui s'est passé.
J'ai accouché par césarienne jeudi dernier. Elle était venue me voir et m'a demandé si elle pouvait prendre des photos avec le bébé en contrepartie d'une petite somme d'argent. J'ai accepté et j'ai demandé à ma mère d'accompagner l'enfant. Une fois dehors, elle a remis 500 francs à ma mère lui demandant d'aller appeler le père de l'enfant. C'est comme ça qu'elle a pu s'échapper avec le bébé. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait pour que je puisse retrouver mon fils.
La présumée voleuse nommée Lorraine est actuellement maintenue à la gendarmerie pour nécessité d'enquête.
Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, c'est la rentrée politique pour Vital Kamerhe.
L'ancien directeur du cabinet de Félix Tshisekedi reprend ce lundi les activités politiques après 2 ans d'absence sur la scène politique. Il préside aujourd'hui la réunion du bureau politique de son parti, l'Union pour la Nation Congolaise, UNC. Pour Vital Kamerhe, c'est la première activité politique depuis son acquittement il y a 2 mois. En 2020, Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison pour des accusations de détournement de fonds alloués au programme d'urgence du président Tshisekedi au pouvoir depuis 2019. Il a été acquitté dans le procès en appel.
La page sport de ce lundi, football, éliminatoire de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Comment la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville se préparent-ils?
Les deux nations livrent des matchs tests pour préparer leur double confrontation. Claire Assambadinga.
Les Centrafricains, dont le stade ne répond pas aux normes exigées par la CAF et la FIFA, recevront les Diables Rouges le 28 août au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Le match retour est prévu le 4 septembre, toujours sur le même terrain. Les hommes de Raoul Savon ont déjà livré 3 matchs avec des clubs locaux. Les Fauves vont gagner 2 de leurs matchs contre l'AS Tempête Mokaf et les Anges de Fatima. Cependant, ils se sont inclinés vendredi dernier devant Red Star sur le score de 4-3. Une performance moins satisfaisante. Satisfaisante pour certains supporters qui ont assisté au match au centre technique de Bangouma. Les Fauves vont disputer leur dernier match test demain contre Olympique Real de Bangui, qui lui aussi se prépare pour les préliminaires de la Ligue africaine des clubs champions contre le FC Vipère de l'Ouganda. De leur côté, les Diables Rouges du Congo ont bouclé samedi leur série de rencontres amicales. Ils en ont joué 6. L'équipe n'a enregistré qu'une seule victoire contre les Écureuils du Benin 1-0. Concernant les 5 autres matchs, elle a concédé un match nul, 1-1 face à la RDC et enregistré 2 défaites. La première face aux Écureuils du Benin 1-0 et la seconde contre les Léopards de la RDC 2-0. Vendredi dernier, les Diables Rouges se sont séparés sur un score de parité 2-2 face au club local Diable Noir, vice-champion du Congo. Ils ont concédé un match nul, 0-0 contre l'AS Otoho, club champion du Congo cette saison. Le vainqueur de cette double confrontation entre la République centrafricaine et le Congo sera qualifiée pour la phase finale qui se disputera en janvier 2023 en Algérie. La particularité du CHAN cette année est que seuls les joueurs évoluant dans leur pays pourront participer à cette compétition.
Merci à vous Claire Assamba Dinga. Du foot encore, fin hier de la 10e journée du championnat de la Ligue de Bangui chez les moins de 20 ans au stade Barthélémy Bogonda, tout puissant USCA a battu Real Comboni 2-0. DFC 8 a également éliminé FCFDS 2-0. Aujourd'hui, les équipes se reposent et demain, ça sera le démarrage de la 11e et dernière journée du championnat de cette catégorie. Voilà tout pour ce journal en français préparé par l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. La version langue nationale, c'est tout de suite.